VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 13h en temps universel. Bonsoir, bienvenue. Le président burundais Pierre Nkurunziza a tenu ce vendredi un nouveau meeting de campagne sous haute sécurité dans un fief de l'opposition, ont rapporté des témoins à l'AFP. Ce meeting est un signe de plus de la volonté du pouvoir burundais de poursuivre coûte que coûte les élections générales qui ont débuté lundi avec des législatives communales en dépit d'une avalanche de critiques de la communauté internationale et d'un boycott de l'opposition. L'élection présidentielle est prévue le 15 juillet. Conséquence de l'entêtement du pouvoir burundais, les États-Unis ont suspendu certains programmes d'aide au Burundi. Le point avec Camille Grosdidier.
À l'origine de cette décision, les abus commis par la police durant les manifestations suscités par la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat à la tête du pays, mais également la décision du gouvernement burundais de procéder à des élections législatives qualifiées d'imparfaites par la diplomatie américaine. Dans un communiqué, le département d'État estime que la décision du président Nkurunziza de se représenter à la présidentielle a entraîné des dizaines de morts, provoqué un exode massif du pays et endommagé l'économie. Les opposants du président affirment que sa décision de briguer un troisième mandat enfreint la constitution burundaise. Par ailleurs, les Nations Unies ont estimé que le scrutin législatif et communal de lundi au Burundi est dénué de toute crédibilité. La mission d'observation électorale de l'ONU a relevé en particulier un climat de peur et d'intimidation et des violences à Bujumbura avant et pendant les élections.
République démocratique du Congo, Amnesty International et d'autres organisations de défense des droits humains continuent d'exiger la libération immédiate de deux militants congolais de la plateforme de jeunes Filimbi en détention depuis le 15 mars. Fred Bauma et Yves Makwambala sont accusés de terrorisme par les autorités de Kinshasa, malgré un rapport parlementaire démontrant le contraire. Pour plus de détails, Eddy Sango a joint à Goma, dans l'Est, Juvin Combé, un membre de l'organisation de Fred Bauma, Lucha, lutte pour le changement.
Dans la pétition, clairement, il est demandé que ces deux activistes de droits de l'homme qui ont été arrêtés rien que parce qu'ils ont participé dans un atelier demandant aux jeunes citoyens congolais d'être engagés à la démocratie. C'est la fin qui soit arrêtée pour nous. C'est vraiment une juste raison pour laquelle nous avons signé cette pétition pour qu'elle puisse aussi augmenter la pression aux autorités congolaises qui ont prétendu que ces jeunes étaient des terroristes alors qu'ils ne faisaient exercer leur droit à la liberté d'expression.
C'est là une énième pétition que vous signez. Est-ce que vous avez l'impression que les autorités de Kinshasa entendent vos revendications?
On ne peut pas baisser les bras parce qu'ils font semblant de ne pas entendre. Nous allons continuer à leur montrer que ce n'est pas exact. Ils ont tort d'arrêter des activistes qui ne font rien. Alors qu'il y a des rebelles qui font des devoirs dans ces pays, on s'acharne contre les citoyens qui ne font qu'exercer leur droit à la liberté d'expression. Ce n'est pas juste. Raison pour laquelle nous sommes totalement engagés à poursuivre avec les actions de cette ampleur, étant donné que nous agissons dans nos violences.
Je viens combler de Lucha, la lutte pour le changement. Congo-Brazzaville, Amnesty International dénonce les violations massives des droits de l'homme par les autorités pendant l'opération Bataya Bakolo, la gifle des aînés en Lingala, qui a conduit à l'expulsion de 179 000 ressortissants de la RDC voisine, des abus qui pourraient constituer des crimes contre l'humanité selon l'Organisation de défense des droits humains basée à Londres. Claire Morin-Gibou a contacté à Nairobi Evie Frank, l'auteur du rapport d'Amnesty sur cette affaire.
Plusieurs actes qui ont été perpétrés dans le cadre de l'opération Mbataya Bokola, comme des violences policières, des détentions arbitraires, des expulsions du territoire, des persécutions et même des viols, et ont été commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre une population civile. Et dans cette situation-là, c'était les ressortissants de la RDC qui étaient ciblés par l'opération. Ce qui nous a surpris vraiment, c'est le climat de xénophobie frappant sur le terrain de la ville de Brazzaville. Et en plus, ce climat était vraiment alimenté par les autorités. Donc premièrement, les autorités, ils ont demandé à la population de dénoncer les ressortissants de la RDC. Ils disaient des maisons criminogènes parce que l'opération était menée à cause de raisons de sécurité. Et ça s'appelait les Kulunas qui qui sont des gangs criminels de la RDC. Mais vite, tous les ressortissants de la RDC étaient assimilés avec Uluna. Amnesty International a obtenu des chansons qui incitaient à la discrimination. Nous avons documenté des cas de violence.
Les témoignages que vous avez recueillis, et notamment des viols des femmes, sont particulièrement violents.
Oui. Par exemple, moi j'ai même parlé à une dame qui vendait des poissons sèches au marché. Un jour, la police est venue les menacer au marché. Ils ont ravi 300 $ et ses marchandises. Ensuite, quand elle a fui le marché avec ses 4 collègues, les policiers les ont suivis. Ils sont entrés dans la maison où ils étaient et ils les ont violés tour à tour. Après cet incident, quand les femmes se sont dirigées vers l'hôpital, ils ont été refusés l'accès aux soins à cause de leur nationalité. Et donc après, ces femmes, ils ont quitté Brazzaville pour Kinshasa, notamment pour obtenir des soins de santé.
Evie Frank d'Amnesty International à Nairobi au Kenya.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Nigeria, une adolescente s'est faite exploser dans une mosquée de Malari, un village du nord-est du pays, tuant 12 fidèles. Les faits se sont déroulés hier, rapporte l'AFP qui cite un milicien témoin du carnage. La jeune fille âgée d'environ 15 ans s'est ruée dans une mosquée de Malari, un village de l'état de Borno dans laquelle des fidèles se préparaient à la prière. En plus des 12 morts, 7 villageois ont été blessés, bilan confirmé à l'AFP par un habitant de Malari. Crise au Mali, les États-Unis condamnent avec la dernière énergie l'attaque d'hier contre un convoi de la mission onusienne dans le pays qui a coûté la vie à 6 Burkinabés. Plus de détails sur cette affaire, sur cette attaque revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique avec notre correspondant sur place à Bamako, Kassim Traoré.
6 soldats de la MINUSMA tués, 5 autres blessés, 2 véhicules détruits, c'est le bilan de l'attaque du convoi d'approvisionnement terrestre qui a quitté Tombouctou ce jeudi 2 juillet 2015 pour Gundam. Le convoi a été attaqué à quelques 45 km de Tombouctou. Le patron de la MINUSMA, le Tunisien Monji Hamdi, condamne cette nouvelle attaque qu'il qualifie de terroriste contre les casques bleus. Pour lui, les responsables de ces crimes ignobles doivent être identifiés et traduits en justice dans les meilleurs délais. Le gouvernement malien, dans un communiqué, a aussi condamné ces crimes. Rappelons qu'au mois de mai dernier, 9 soldats maliens ont été tués sur le même tronçon par des bandits armés avec des dégâts matériels importants. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le président français François Hollande était aujourd'hui à Luanda en Angola, deuxième étape de sa tournée africaine après le Bénin. À son programme, l'ouverture d'un forum économique franco-angolais où des contrats d'un montant global $1 milliard devraient être signés selon l'AFP. Après l'Angola, François Hollande se rend donc ce soir au Cameroun, dernière étape de sa tournée où il aura des consultations avec son homologue camerounais Paul Biya sur la lutte contre le groupe islamiste nigérien Boko Haram. Le chef de cabinet du président iranien Hassan Rouhani s'est rendu aujourd'hui en mission spéciale à Vienne pour participer aux ultimes jours de négociations nucléaires avec les grandes puissances. Selon l'agence officielle iranienne IRNA, ce voyage est une mission spéciale durant laquelle il doit avoir des consultations nécessaires avec la délégation qui tente de parvenir à un accord global sur le nucléaire de Téhéran avec le groupe 5+1. Les deux parties ont jusqu'à mardi pour sceller cet accord qui garantirait la nature pacifique du programme nucléaire de Téhéran en échange de la levée des sanctions internationales qui frappent l'économie iranienne. En Grèce, plus que 2 jours avant le référendum de dimanche sur les conditions de remboursement de la dette nationale suggérée par l'Union européenne, le gouvernement appelle à voter non lors du scrutin, mais le tout dernier sondage de l'électorat montre que les Grecs sont divisés pratiquement à égalité entre le oui et le non. Pour leur part, les leaders de l'Union européenne avertissent qu'un vote négatif entraînerait la sortie de la Grèce de la zone euro. Pour finir, l'économie américaine, 223 000 emplois ont été créés aux États-Unis en juin et le taux de chômage s'élève maintenant à 5,3%, soit une baisse de 0,2%. Le président Barack Obama dit que ces chiffres sont excellents, mais à son avis, il y a encore du travail à faire pour que les salaires et les revenus des Américains continuent à augmenter. Le taux de chômage est à son niveau le plus bas depuis 2008, mais les experts disent que ce pourcentage est en partie dû au fait que 400 000 chômeurs ont renoncé à chercher des emplois et ne sont plus comptés dans les statistiques sur le chômage. Jean-Roger Billon à ce micro, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans 50 minutes pour un nouveau point de l'actualité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA.